Vous êtes sur RTL.
J'espère.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. 65, décalé l'âge de départ à la retraite à 65 ans. D'après les informations de RTL, c'est bien la piste privilégiée par le gouvernement. Alors que le texte doit être présenté d'ici une quinzaine de jours. La grande misère de la justice dénoncée par les magistrats et avocats de Nanterre qui ont décidé justement de saisir la justice pour réclamer des renforts. À suivre aussi le Mondial au Qatar, match très symbolique ce soir entre l'Iran et les États-Unis. Et puis la baguette symbole de la France par excellence en passe d'entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La réponse est attendue cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, notre baguette? On en parle après le journal avec Frédéric Comin, lauréat du prix de la meilleure baguette de Paris.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour Toulon où l'on s'inquiète à cause d'une fourmi électrique. Oui, oui. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien, celui d'une famille nombreuse aujourd'hui. Laetitia a 10 enfants, courses, lessive, planning, elle nous racontera tout ça. Juste avant 13h, LVT Midi, en musique, ce mardi avec Yodelis et Claudio Capeo. La question du jour sur notre site rtl.fr. Achetez-vous quotidiennement une baguette.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute notre camarade Marion Calais qui sera avec nous pendant l'émission. C'est le premier anniversaire de Focus, le podcast de la rédaction de RTL.
La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Les grisailles ont du mal à se morceler, donc ce sera souvent gris.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Ce sera donc 65 ans. RTL vous le révélait ce matin, le gouvernement a bien décidé de privilégier cette piste-là pour réformer les retraites, reporter l'âge de départ à 65 ans. Elisabeth Borne, la première ministre, s'invite à la réunion de groupe des députés de la majorité qui débute actuellement pour faire un point sur l'avancée des discussions avec les partenaires sociaux. Discussion qui, après nos révélations, s'annonce tendue, Nerissa Emani.
Oui, car c'est à la radio que les syndicats ont appris la nouvelle ce matin, alors même qu'ils ont rendez-vous la semaine prochaine au ministère du Travail pour discuter de la réforme. Donc, si le gouvernement prévoit de passer le texte en force, Michel Bogaz de Force Ouvrière prévient, la réaction sera tout aussi radicale.
Si la Première Ministre et si le gouvernement cherche la confrontation avec les organisations syndicales, eh bien, il va la trouver. Nous, malheureusement, s'il faut que les fêtes soient gâchées par un peu de manifestation contre cette réforme, nous le ferons, nous n'hésiterons pas à un seul instant.
Le troisième cycle des concertations sur la réforme débute à peine, mais vous l'entendez, les positions sont fermes. Dès hier, Laurent Berger indiquait sur RTL qu'il n'était pas question de toucher à l'âge de départ.
Je crois qu'il y a une incandescence extrêmement forte aujourd'hui dans notre pays. Beaucoup de difficultés sociales et beaucoup d'inquiétudes. Sortir un âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, c'est mettre beaucoup de conflits dans le pays.
Une réunion intersyndicale est prévue lundi prochain pour décider du calendrier des mobilisations à venir. Avec une certitude, si ce n'est pas pendant les fêtes, ce sera au mois de janvier.
Nerissa Emani du service économie et sociale d'RTL.
Sujet qui fera réagir bien sûr les auditeurs. Un mois après la mort de la juge Marie Truchet en pleine audience, magistrats et avocats de Nanterre saisissent la justice.
Un recours, oui, devant le Conseil d'État pour alerter une fois de plus sur la grande misère de la justice et pour réclamer des renforts, Cindy Hubert.
Oui, je dois vous dire que la scène était assez saisissante. Des avocats et des magistrats qui parlent d'une seule voix, les mines encore extrêmement peinées. Marianne Higamère, la vice-présidente au tribunal de Nanterre, le répète, nous avons tout essayé. Des juges qui saisissent la justice, c'est le tout dernier SOS.
La chancellerie a décidé que pour Nanterre, il fallait 111 magistrats, sauf qu'à 111 magistrats, on n'y arrive pas. Nous, on estime qu'il nous en faut au minimum du minimum 35 de plus au siège et une bonne dizaine au parquet. Et que là, peut-être, on pourra commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Ces chiffres, ils ne comptent pas les collègues qui sont en situation de burn-out depuis des mois, qui sont pour certains hospitalisés et qui reviendront probablement pas dans la juridiction.
Et les premières victimes, c'est évidemment les justiciables. Il faut attendre 18 mois pour des conflits sur les pensions alimentaires ou la garde des enfants. Un seul magistrat qui gère 1000 dossiers de tutelle à plutôt. Et les prochaines dates pour une audience de départage au prud'homme n'ont plus aucun sens. On parle de l'année 2028.
Cindy Hubert, spécialiste justice ici à RTL. Et à propos de justice, ne ratez pas ce numéro spécial de Focus, hein, le podcast de la rédaction qui fête son premier anniversaire aujourd'hui. Marion Calais, qui présente ce rendez-vous, vous emmène dans les coulisses d'un procès aux assises après avoir été elle-même récemment jurée. Ce sera à retrouver dès cet après-midi sur notre site et sur toutes les plateformes. Eux sont venus avec leur tablier. Les bouchers charcutiers manifestent devant l'Assemblée nationale à Paris pour alerter sur leur situation critique face à la hausse des prix de l'énergie.
On a vu une grosse hausse de 5000 euros de plus sur les factures par rapport au début d'année. Et c'est pas fini parce que justement on a une hausse début de l'année prochaine, 58 centimes le kilowattheure comparé à 17 maintenant.
Est-ce que c'est quoi le plus énergivore dans votre boucherie ?
C'est les machines, tout ce qui est cutter, hachoir, poussoir, c'est ça qui consomme le plus. Et comme c'est avec ça qu'on travaille le plus, bah, ils sont longtemps allumés, au moins 5 heures par jour. Si la hausse continue comme ça, on ferme, ça c'est sûr.
John Boucher en Alsace, témoignage recueilli pour RTL par Corentin Bémol.
RTL, Coupe du Monde 2022.
C'est le scénario idéal pour les Bleus, un match pour confirmer, faire tourner, déjà qualifié. Les joueurs de l'équipe de France affronteront la Tunisie demain, dernier match de leur phase de poule.
L'occasion effectivement de confirmer leur bonne entame dans ce mondial, de s'assurer aussi une première place. Et comme la qualification est déjà acquise, vous le disiez, Didier Deschamps va pouvoir faire souffler certains de ses cadres, Nicolas Georgerot, en prévision des huitièmes de finale.
Oui, trouver le bon équilibre, surtout entre faire respirer les uns, relancer les autres, tout en conservant une équipe compétitive. Il ne s'agit pas de lâcher la rencontre, ce n'est pas le genre de la maison Deschamps et il y a de l'enjeu pour les autres nations du groupe. Après l'adaptation, la gestion, maître mot en l'espace de 48 heures du sélectionneur.
J'ai beaucoup plus d'éléments que vous par rapport aux situations des uns et des autres où il n'y a pas de risque à prendre. Après, c'est des discussions avec les joueurs, avoir leur propre ressenti aussi. Des changements, oui, il y en aura.
La moitié de l'équipe au moins sera modifiée. Mandanda a de très fortes chances par exemple de débuter dans le but. Mbappé aura sans doute du temps de jeu aussi pour commencer ou finir la rencontre, comme en 2014 par exemple lorsque Benzema au Mondial au Brésil, principal atout offensif, avait disputé ce troisième match contre l'Équateur quasiment sans enjeu car il souhaitait jouer et garder le rythme avant le huitième de finale.
Nicolas Georgerot, Qatar pour RTL et en attendant les Bleus donc demain à 16h. Les matchs du jour à 16h déjà dans le groupe A. Les Pays-Bas affrontent le Qatar, l'Équateur, le Sénégal. Et puis ce soir à 20h, Pays de Galles, Angleterre et Iran, États-Unis. Match très symbolique alors que la contestation se poursuit en Iran. On fera d'ailleurs un point sur la situation dans le pays à 12h40. Et puis un mot de F1 pour vous dire que le patron de Ferrari a présenté sa démission. Mattia Binotto n'a pas réussi à reconquérir le titre mondial malgré une voiture plus performante cette année. La météo sur les routes, mais pas que. On vous retrouve Peggy Broche et c'est gris.
Oui, c'est souvent gris, Céline, avec cette perturbation qui a du mal à s'évacuer sur le flanc est. On est vraiment entre l'Alsace et les frontières de l'Est, avec de la neige à faible altitude. Et en revanche, en Corse, ça reste bien pluvieux avec des averses orageuses. Pluvieux et gris également au pied des Pyrénées cet après-midi. Mais près de la Méditerranée, on a du beau temps avec du vent. Et partout ailleurs, c'est vrai qu'on a un temps plus ou moins gris parce que les grisailles ont vraiment du mal à se dissiper. Alors, elles vont légèrement se dissiper cet après-midi entre la Normandie, la Bretagne et le Sud-Ouest, mais ailleurs, ça restera souvent laiteux. Côté température, pardon ?
Non, j'ai dit laiteux.
Laiteux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Le ciel laiteux, un peu
bien
blanc,
sûr,
gris.
Bien sûr.
Voilà. Les températures, elles sont en baisse entre 7 à Lille et 14 à Perpignan. Mais on est sur des valeurs de saison. 8 à Rouen, 9 à Paris, 10 à Alençon, 11 à Cherbourg, 12 à Rennes, 13 à Bordeaux et 14 à Biarritz.
Merci Peggy.
RTL Midi,
un jour chez vous.
Chaque jour, l'info plus près de vous.
Aujourd'hui, direction Toulon. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour Céline et Pascal. Bonjour à toutes et à tous.
Elle est originaire d'Amérique du Sud. Elle est minuscule, mais sa piqûre fait un mal de chien. Et elle vient d'être observée à Toulon. Je vous parle de la redoutable fourmi électrique. C'est son surnom, une espèce invasive qui menace la biodiversité. Étienne, d'importants moyens vont être débloqués pour tenter de l'éradiquer. Mais au départ, c'est un passionné d'insectes qui a découvert les premiers spécimens.
Oui, c'est grâce à la curiosité de Théophile, un étudiant en biologie, que la Wasmania auropunctata, hein, le nom scientifique de la fourmi électrique, est localisée l'été dernier dans une copropriété toulonnaise. Sur la terrasse, il observe de petites fourmis à la couleur rouge-orangée. Elles ne mesurent pas plus d'un millimètre et demi. Mais Théophile, myrmécophile, hein, passionné par les fourmis, ne les reconnaît pas. Et c'est grâce aux photos qu'il poste sur une plateforme et aux spécimens qu'il va envoyer que des spécialistes vont certifier sa découverte.
C'est absolument incroyable, une découverte inquiétante d'ailleurs, Étienne.
Ah oui, très inquiétante même, hein, car la fourmi électrique est une des espèces les plus envahissantes au monde. Et pour cause, elle profite d'un double système de reproduction, une reproduction sexuée classique, mais aussi une reproduction par clonage. Oui, vous avez bien entendu, par clonage. Olivier Blight est chercheur à l'Université d'Avignon.
Les reines sont capables de produire de nouvelles reines qui sont des copies conformes de leur mère. Et ça, donc, ça va permettre de produire beaucoup de reines. Les reines vont produire beaucoup d'œufs et du coup beaucoup d'ouvrières. C'est comme ça qu'on va atteindre des densités qui peuvent dépasser les millions d'individus.
Donc Étienne, cette fourmi électrique, elle est très invasive. Elle peut avoir des conséquences néfastes importantes, notamment pour la biodiversité.
Oui, et Olivier Blight nous donne l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, colonisée depuis plusieurs années par cette fourmi.
On voit très bien dans les zones envahies une baisse très importante des abondances d'orthoptères, donc des grillons par exemple, des autres fourmis, des coléoptères. Avec son venin très puissant, elle va les tuer, elle va se nourrir d'autres insectes. Sa présence va gêner des reptiles par exemple ou des oiseaux et elle va engendrer du coup une disparition en cascade d'autres espèces. Moi, ce que j'ai pu constater dans la zone envahie, donc à Toulon, en soulevant des pierres, on voit des cadavres de très grosses fourmis locales qui sont mangés par cette fourmi électrique.
Étienne, cette espèce a été récemment inscrite sur une liste rouge, la liste des espèces préoccupantes pour l'Union européenne, avec pour la France l'obligation de mettre en place un protocole d'éradication.
Oui, et un plan est en train d'être échafaudé, hein, chapeauté par la préfecture du Var. D'abord, circonscrire le périmètre de leur colonisation à Toulon. Pour l'instant, il serait d'un hectare, un hectare et demi. Quelques mesures de précaution ont déjà été prises. Dans ce périmètre, la métropole toulonnaise a mis en place une collecte spécifique des déchets verts pour éviter une éventuelle dispersion, sachant que les premières fourmis électriques sont sans doute arrivées ici dans un pot de fleurs ornementales en provenance d'Amérique du Sud. Par ailleurs, les scientifiques sont en train d'identifier les produits efficaces pour leur éradication. L'Australie, qui connaît une telle invasion, en utilise déjà, qui bloque la croissance des larves. Les premières opérations pourraient avoir lieu début 2023.
Étienne Baudieu à Toulon, donc, pour RTL.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. C'est la baguette qui sera peut-être reçue à l'UNESCO. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi, juste prêt. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
C'est un symbole par excellence de la France. Cet après-midi, la baguette pourrait faire son entrée au patrimoine de l'UNESCO. C'est Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, qui avait proposé cette candidature. Près d'une centaine de dossiers dans le monde obtiennent chaque année ce label de l'inscription au patrimoine des biens immatériels. Pour en parler avec nous, un spécialiste de la baguette, Frédéric Comines. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes boulanger, pâtissier à Paris et spécialiste, je le disais, puisque vous avez remporté déjà le prix de la meilleure baguette de la ville de Paris. D'abord, qu'est-ce que c'est la recette d'une bonne baguette ?
Alors, bien sûr, ce qui est très important, c'est les matières premières. Les matières premières sont primordiales. Après, il y a la fermentation qui est primordiale aussi dans une bonne baguette. Il n'y a pas de bonne baguette sans bonne fermentation.
Et il y a une recette type ? Est-ce que tout le monde utilise les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions pour faire la recette de la baguette tradition, par exemple ?
Normalement, oui, mais il y a quand même la pâte du boulanger et le tour de main qui fait en sorte que la baguette est bonne ou non.
Mmh. Et le cahier des charges, c'est quoi alors ? Pour avoir une vraie baguette, il y a une question de poids, de taille, de...
En fait, il n'y a pas réellement de critères en termes de poids, sauf pour les concours où on nous impose un poids et une taille. Et un pourcentage de sel maximum. Par contre, pour le quotidien, il n'y a pas de règles précises.
Le temps de vie d'une baguette, c'est 24 heures ?
Il faut la manger vite et venir en rechercher une rapidement.
Oui, mais bon, 24 heures, ça tient quand même.
Ouais, non, bon. Franchement, maintenant, on est quand même avec des bonnes fermentations sur 36 à 48 heures, où on arrive encore à avoir quelque chose de très bien.
Alors, il y a plein de baguettes différentes. Il y a la tradition, il y a la ficelle, il y a la demi-baguette. Qu'est-ce qu'il faut prendre et en fonction de quoi ?
En fonction des goûts, après, ça, c'est chacun qui gère. Moi, je préfère vraiment la tradition.
C'est quoi la tradition ?
La tradition, c'est une baguette qui est faite avec une farine de tradition qui est donc sans additif, sans aucun additif. Il y a une grosse fermentation. Nous, par exemple, chez nous, dans nos trois boutiques, la pâte, entre le début et la fin du pétrissage et de la cuisson, il y a 48 heures qui se passent.
C'est ça qui fait que la mie est plus aérée, plus souple.
La mie est aérée, on développe tout le bouquet aromatique. Donc on a vraiment le goût du froment, des fruits secs et une belle croûte qui va dorer. Et c'est ce qui nous plaît, nous, en fait.
Ce qui est étonnant, c'est que la baguette de Paris n'est pas la même, par exemple, que la baguette qu'on achète en altitude au sport d'hiver ou la baguette qu'on va acheter au bord de mer. Pourquoi ?
Ben, tout joue, en fait, dans la baguette. Vous pouvez avoir 10 personnes avec 10 farines Et au même endroit, ils vont pas faire la même baguette.
Oui, mais ça c'est j'entends bien, mais oui. La baguette en altitude ou au bord de la mer,
l'hygrométrie, l'altitude joue sur les levures, sur la fermentation, la température.
Avec les mêmes matériaux.
Avec les mêmes matériaux, vous aurez pas la même chose.
Ça c'est sidérant quand même.
En France, on a quelques très bons meuniers. Moi je travaille avec les moulins bourgeois qui sont situés juste à côté en Seine-et-Marne. Ils livrent peut-être 30 ou 40 ou 50 ou 100 boulangers dans Paris. On n'a pas la même baguette.
Donc personne si
la
vous même baguette. Faites une baguette à Paris et que demain vous la faites à La Baule ou à l'Alpe d'Huez,
oui.
Ça ne sera pas la même baguette.
Ce ne sera pas la même chose.
En fonction de l'endroit où vous l'aurez faite.
Ce ne sera pas la même chose. Il faudra qu'on travaille pour obtenir la même chose, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a plein d'éléments qui font que le produit est vraiment particulier.
Comment on peut expliquer que ce soit la baguette qu'on présente aujourd'hui comme candidate à l'UNESCO et pas le pain de campagne ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette baguette que tout le monde nous envie ?
La baguette, c'est un symbole national quand même. Vous allez aux États-Unis, tout le monde vous dit que vous êtes boulanger, tout le monde vous dit « Ah, la baguette, le fromage, c'est des choses qui sont très particulières à la France ». C'est vraiment un beau symbole, le béret, la baguette et le fromage. Quoi. C'est vraiment...
Mais si la baguette n'est pas la même, je reprends mon exemple, à l'Alpe d'Huez, à La Baule et à Paris, où est-ce qu'elle est la meilleure ?
Bah, je vais vous dire à Paris,
dans
chez moi,
boutique.
Puisque j'ai gagné le concours de la meilleure baguette de Paris.
Il ne faut pas qu'il y ait trop d'hydrométrie, il y a des paramètres très précis.
Il faut tout contrôler. C'est ce qui est le plus difficile, en fait.
Bon, l'UNESCO, qu'est-ce que ça change ?
Bah, c'est une fierté déjà pour nous, les boulangers-pâtissiers, puisqu'on va quand même faire quelque chose... Qui a un sens, qui a de l'allure, quoi. Je veux dire, c'est pas tous les jours où on peut dire que ça a été inscrit, quoi. Donc non, c'est vraiment chouette. Et puis on a tout ce côté qu'il y a eu beaucoup de travail de la Confédération des boulangers-pâtissiers justement pour mettre en avant par rapport aux produits de des grandes surfaces.
Votre baguette, la meilleure de Paris, elle est à combien dans votre boutique ?
1,20€.
1,20€, la tradition.
1,20€, ouais.
Merci, parce que vous nous en avez apporté plusieurs et on va pouvoir...
Je les ai mangés sur la route.
On va pouvoir les goûter. Faut manger quoi ? Un tiers de baguette par repas ?
Par repas ?
Bah, un tiers, c'est pas beaucoup. Vous trouvez que c'est beaucoup, un tiers ?
Bah, ça fait quand même une baguette par jour, hein.
Bah un tiers, non.
Bah
ça,
si,
oui,
par repas.
Ça fait à trois repas. Non, mais un tiers de repas, c'est quoi ? Oui.
Il faut manger ce qu'on a envie hein, sur la baguette.
Oui, bien sûr. Vous ne mangez pas beaucoup de pain ? Moi, j'aime bien le pain.
Généralement, pour un repas, on compte une baguette pour trois personnes, effectivement.
Voilà, un tiers. Voilà.
Une baguette pour trois personnes.
Écoutez, ça. Merci beaucoup, et c'est vrai que c'est très bon. Il faut manger vite. Il est 12h19, la pause, nous revenons dans une seconde.
On sera là.
On parlera de quoi ?
Des familles nombreuses qui achètent un paquet de baguettes. On sera avec Laetitia qui a 10 enfants. On lui demandera combien elle en prend quand elle fait les courses.
A tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la minute. RTL Midi. Votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Famille heureuse. Alors une famille nombreuse d'après l'INSEE, c'est à partir de 3 enfants. Une famille sur 5 en France est donc concernée, qu'elle soit traditionnelle, comme on dit, ou recomposée. Bonjour Laetitia Quignon-Fleuret.
Bonjour.
Alors vous n'avez pas 3, 4, mais 10 enfants. L'aînée a 19 ans, la petite dernière 2 ans et demi. Oui, merci de confirmer, les informations sont justes. Comment on fait au quotidien avec 10 enfants ? On était à l'instant avec un boulanger qui nous expliquait qu'une baguette, c'était a priori pour 3 personnes pour un repas. Ne serait-ce que pour les courses alimentaires, comment vous faites ?
Alors les courses, effectivement, ça me prend pas mal de temps, mais maintenant je profite des formules de drive pour, voilà, je fais un ou deux pleins par semaine. Et puis je vais une fois par semaine au marché. Donc voilà, c'est vrai que ça prend forcément plus. Ça demande un peu plus de logistique que des familles moins nombreuses, mais ça se gère. Et effectivement, j'achète pas mal de baguettes.
Faut également, j'imagine, un certain niveau de revenu quand même, parce qu'il faut des chambres, il faut des habits, il faut une maison, il faut beaucoup de voitures.
Oui, bien sûr.
C'est pas simple. Combien il y a de chambres pour ces enfants ?
Alors, on a sept chambres et puis une salle de jeu, mais c'est vrai qu'on a le problème des chambres, c'est-à-dire que on a trois paires d'enfants qui sont dans la même chambre, enfin deux par deux. Et autant quand ils sont petits, ça pose aucun problème. Et c'est vrai qu'en grandissant, on sent qu'ils aspirent à avoir leur espace.
C'est une grande maison, sans doute.
Oui, c'est une grande maison. On a de la chance d'avoir une grande maison dans la banlieue parisienne.
Et vous avez quelle voiture vous avez?
Il en faut deux, non?
Alors, on a deux voitures. On a un Renault Trafic. Donc, non. On a un Renault Trafic donc, qui comprend 9 places. Et puis, une autre petite voiture. Parce que c'est vrai que des fois, je me déplace avec juste 2 ou 3 enfants. Mais pour quand on part en vacances, effectivement, on
a la grosse voiture. Il faut compter à chaque fois qu'il n'en manque pas un. Parce que 10 dans la voiture.
Ah oui, c'est sûr. Pas d'oublier.
Vous avez déjà pris l'avion tous ensemble?
L'avion, on a été, mon frère s'est marié au Maroc il y a 4-5 ans, et là on y avait été tous, tous ensemble. C'était un peu l'expédition, les enfants étaient ravis. Mais c'est vrai que c'est relativement rare. Enfin, les voyages à l'étranger, on n'en fait pas tant que ça, parce que au niveau de l'organisation logistique, c'est quand même compliqué. Et puis, comme vous dites, il y a le coût financier.
Alors justement, vous parlez de l'organisation. Comment ça se passe une journée type pour vous
Oui, une journée type. Eh ben, écoutez, les grands, les collégiens et lycéens sont relativement autonomes. Ils se préparent tout seuls, vont au collège et lycée en bus ou de temps en temps, occasionnellement, je les mène. Moi, je m'occupe de préparer les petits, je les dépose à l'école.
Mais il y a eu un petit déjeuner, par exemple, ce matin, avec 10 personnes autour de la table.
Oui, alors, généralement, c'est plutôt assez rapide et chacun prend un...
C'est un self-service, quoi.
Oui, voilà, c'est plutôt self-service. Quand on est prêt, on mange.
J'espère que votre mari vous aide un peu, quand même, que c'est un mari moderne.
Je ne sais pas.
Vous me faites peur. Quand il peut, oui.
Mais
quand il peut.
Après, des fois, il part tôt, des fois.
Je comprends qu'il parte avant le réveil, effectivement. Qui vous laisse réveiller tout le monde.
Les petits sont relativement autonomes, même assez vite, je trouve, à l'âge de 3-4 ans. 4 ans, ils commencent à s'habiller tout seuls, à petit déjeuner tout seuls. Après, voilà, bien sûr, je suis là à côté, je les coiffe, je leur sors les habits, on va fixer l'heure.
Et est-ce qu'il y a une vraie solidarité qui s'instaure dans la fratrie, ou est-ce que ça, c'est un mythe quand on n'est pas concerné?
Nous, on aimerait bien, mais pour l'instant, on est plutôt au stade où ils se chamaillent beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rivalité, Après, j'ai l'impression qu'en grandissant, nos ados, effectivement, commencent à bien s'entendre. Il y a une certaine
garçon-fille, combien de filles
On a 7 filles et 3 garçons.
Et vous pouvez donner les prénoms?
Oui, alors Élise, Tristan, Ambre, Clélia, Naïs, Raphaël, Augustin, Camille, Maëlys et Alban.
Et alors, petite question, c'était un souhait depuis toujours pour vous d'avoir une famille très nombreuse?
Alors, moi, oui, ça faisait longtemps que... Je viens d'une famille de 5 enfants, et donc je savais que je voulais une famille nombreuse. Après, je pensais pas forcément aussi nombreuse. Enfin, on n'avait pas forcément projeté aussi nombreux à l'avance quand on s'est rencontrés. Mon mari, c'est plus original, parce que lui, il était fils unique. Donc, c'est vraiment le...
Je comprends qu'il part vraiment très tôt le matin. Alors, dites-moi, jamais 10, 111, qui est un proverbe très connu, bien sûr.
Non, je pense qu'on va s'arrêter à 10, parce que déjà, j'ai mon âge, et puis on se rend compte qu'il faut quand même être disponible à chacun. Et je vois que, finalement, en grandissant, ils prennent autant de temps que lorsqu'ils sont petits, je trouve. Enfin, c'est différent, mais ils prennent aussi beaucoup de temps. On essaie de passer du temps le soir avec eux. Débriefer.
Mais c'est formidable, c'est Noël bientôt. En plus, j'imagine que vous faites les cadeaux de Noël.
Je cours les magasins.
C'est évidemment un boulot à plein temps que vous faites, bien évidemment.
Voilà.
Merci Laetitia, c'est un témoignage absolument formidable. Je rêve de poursuivre cette conversation, Laetitia. Je me demande même si vous ne pourriez pas être avec les auditeurs tout à l'heure pour échanger avec les auditeurs et pourquoi pas leur donner des leçons à certains ou certaines parfois qui, avec un ou deux enfants, ont du mal.
Non, j'ai pas ce qu'à donner à personne, hein, je pense, parce que des fois c'est vraiment le bazar chez nous aussi. On n'a pas de leçons à donner.
En tout cas, merci, merci beaucoup. J'ai pas retenu tous les prénoms, mais il y a Ambre,
Tristan.
Tristan, c'est des très jolis prénoms,
Raphaël,
également, que vous avez. Et vraiment, on les embrasse tous. Et vraiment, bon courage également à vous, même s'il y a beaucoup de bonheur dans tout ça. Il est 12h29. La pause, et nous revenons avec les infos.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Nous sommes en poil en retard, c'est vrai, mais le témoignage de Laetitia, mère de 10 enfants, était si exceptionnel qu'on l'a prolongé. C'est l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
Un nouvel espoir pour les victimes d'agressions sexuelles pour la première fois, malgré des faits prescrits. Un agresseur est condamné, on vous explique tout dès le début de ce journal. À la une, toujours la crise énergétique. Le gouvernement se prépare aux coupures de courant cet hiver, mais pour les éviter, c'est sur le charbon que l'on mise. Elle avait fermée en mars, la centrale de Saint-Avold vient de redémarrer. Le foot et le mondial au Qatar avec un match très symbolique ce soir entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran où les gardiens de la révolution reconnaissent 300 décès depuis le début des manifestations dans le pays. On y revient après le journal. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, rendez-vous musical aujourd'hui. On sera avec Yodelis et Claudio Capeo. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr. Achetez-vous quotidiennement une baguette, la baguette qui pourrait entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO cet après-midi.
On parlera de tous ces sujets à 13h avec les auditeurs.
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
C'est souvent gris aujourd'hui.
Merci Peggy, la météo complète donc à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Et pour commencer donc cet espoir pour les victimes d'agressions sexuelles déboutées parce que les faits sont prescrits. Pour la première fois, la justice condamne un agresseur malgré cette prescription. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Une condamnation, et c'est important de le souligner, non pas au pénal, mais devant un tribunal civil.
Oui, un moyen inédit. L'auteur présumé n'a pas été condamné pénalement, à de la prison notamment, mais sa responsabilité a été établie et des dommages et intérêts seront fixés, car les règles de prescription sont différentes au civil. 10 ans après la consolidation du préjudice. En clair, tant que le traumatisme perdure et s'aggrave, le procès reste possible. Dans cette affaire, le plaignant dénonçait des agressions sexuelles commises au début des années 90, pendant son adolescence, par un ami de son père, figure des courses hippiques. Mais ce n'est qu'une fois adulte qu'il a pris conscience de son traumatisme, accompagné d'une dépression, alors que les faits étaient pénalement prescrits. Pour son avocat Olivier Pardot, c'est une décision cruciale.
Ça ouvre une voie au procès pour les victimes d'agressions sexuelles qui prennent conscience tardivement, ce qui est très fréquent parce qu'il y a tout un mécanisme de déni, surtout quand ça se déroule dans l'enfance. C'est-à-dire que on met fin à cette idée que la justice serait inopérante.
Une décision qui pourrait toutefois, attention, être frappée d'appel et contestée en cassation, car l'auteur conteste les faits. Mais cela va certainement ouvrir la voie à de nouvelles procédures dans des affaires de violences sexuelles classées pour prescription.
Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL.
RTL vous le révélait ce matin, le gouvernement veut décaler l'âge du départ à la retraite à 65 ans.
Oui, c'est la piste privilégiée par l'exécutif alors que le texte doit être présenté dans une quinzaine de jours. Texte explosif sur lequel, d'après nos informations, toujours Elisabeth Borne n'exclut pas d'avoir recours au 49-3. En attendant, la première ministre assistait ce matin au Conseil des ministres, conseil durant lequel le gouvernement a évoqué cet hiver compliqué qui s'annonce avec d'éventuels délestages tournant en cas de pic de consommation d'énergie. Même si l'exécutif est optimiste, il assume de se préparer en cas de grand froid. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Si la situation devait l'exiger, sachez que nous disposons d'abord de premiers rideaux d'intervention. Ils font appel notamment à des efforts demandés à certaines entreprises très consommatrices d'électricité. En deuxième rideau, il peut y avoir des petites baisses de tension sur certaines lignes qui sont absolument invisibles. Et en cas de scénario critique, un dispositif exceptionnel de dernier recours a été prévu par le gouvernement en lien avec les territoires et en concertation avec les gestionnaires du réseau électrique. Nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des coupures en adaptant nos comportements.
Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Conséquence de cette crise énergétique, la centrale à charbon de Saint-Avold a recommencé à produire de l'électricité.
Elle avait pourtant fermé en mars dernier, fermeture justifiée par des émissions en CO2 trop importantes. Mais voilà, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes, les priorités du moment, les températures baissent, Samuel Goldschmidt. Alors sur le site de Moselle, on recommence à brûler du charbon.
Oui, et une montagne de charbon, littéralement. Il y en a 400 000 tonnes stockées ici, venues d'Afrique du Sud, de Colombie, des États-Unis. Le convoyage lui-même a été toute une aventure. Et il est ensuite chargé sur les bandes convoyeuses toute la journée pour alimenter la fameuse tranche 6. Il lui faut de 400 à 600 tonnes par heure. Et c'est le royaume de Thomas Abou, le chef de car.
On le broie, donc ça devient une farine. Ensuite, il rentre en chaudière. La molécule de carbone doit être la plus sèche possible pour s'enflammer immédiatement. Ça chauffe nos tubes, l'eau chaude devient vapeur. On fonctionne à des températures très hautes dans la chaudière. Au niveau du feu, on est au-delà de 1000 degrés et on en génère une vapeur à 540 degrés, à 180 bars. Et cette vapeur attaque notre turbine qui nous permet de générer donc entre rien et 600 mégawatts.
Et vous l'entendez, le ronflement de cette turbine avec des arbres de 30 mètres de long, une Alstom Atlantique installée en 1980. Tout est absolument démesuré. La chaudière fait 92 mètres de haut. Cet ensemble est capable d'alimenter les trois quarts des foyers de Lorraine en électricité. Et tout fonctionne sur la demande, donc, on le rappelle, du gouvernement pour éviter les coupures de courant.
Samuel Goldschmidt à Saint-Avold pour RTL.
Délit qui ferme, un personnel insuffisant. Les psychiatres hospitaliers manifestent aujourd'hui.
Ils s'estiment abandonnés par l'État. Rassemblement qui avait lieu dans plusieurs grandes villes. C'était le cas à Paris devant le ministère de la Santé. Et parmi les manifestants, Martin, pédopsychiatre à Étampes en région parisienne, il assure qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens de traiter tous ses patients.
Le mardi dernier, je suis de garde à l'hôpital général. Quand je finis de trouver le temps d'aller en pédiatrie voir un adolescent qui était dans un état suicidaire, j'apprends que ses parents cherchaient depuis des mois une consultation ambulatoire et ils n'ont pas trouvé. L'état d'enfant s'est aggravé entre-temps, mais comme j'étais tout seul, il fallait attendre des heures et des heures. Je n'ai pas pu l'hospitaliser parce qu'il n'y avait ni lit en pédiatrie, ni lit en pédopsychiatrie. Il a dû repartir chez lui. Donc il y a un jeune et qui est venu jusqu'aux urgences dans un état qui est préoccupant. Éthiquement, c'est inacceptable.
Un propos recueilli pour RTL par Sébastien Rouxel. Les autorités de santé alertent contre le faible taux de vaccination contre le Covid. Elles estiment que seuls 21% des plus de 80 ans sont aujourd'hui suffisamment protégés, 37% pour les plus de 60 ans.
Direction Lyon à présent, où comme à Lille, des fissures inquiètent.
Alors cette fois, elles ne sont pas apparues sur des immeubles d'habitation, mais sur les murs d'une école maternelle du 3e arrondissement. École que la ville vient de fermer, Frédéric Perruche, pour tout le mois de décembre.
Oui, le temps de sécuriser les lieux, un mois de fermeture donc à partir de lundi. Et c'est un soulagement pour Audrey Brunant, une maman.
L'ensemble des parents est soulagé, on n'était vraiment pas rassurés, la fissure est quand même impressionnante. De mon point de vue, oui, il y avait un risque d'effondrement. Mais voilà, les travaux vont être faits et la pression retombe un petit peu, on dira, et on est soulagé.
Une classe avait déjà été fermée le mois dernier et aujourd'hui, par précaution, c'est toute l'école qui est concernée car les fissures ont légèrement bougé. Stéphanie Léger, adjointe au maire, chargée de l'éducation.
Il va y avoir des travaux importants dans la cour pour consolider ce mur. Ce qui fait qu'on nous avait dit que les travaux peuvent être faits en présence des enfants, mais effectivement, il va y avoir du bruit, certainement de la poussière. Et avec des enfants, et particulièrement des enfants de maternelle, je pense qu'il était quand même beaucoup plus opportun et raisonnable de proposer aux parents, effectivement, de pouvoir transférer, délocaliser l'ensemble des classes de la maternelle.
Et les 80 bambins seront scolarisés dans une école voisine jusqu'à Noël.
Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
RTL, Coupe du Monde 2022.
Pour la plupart des équipes, c'est un dernier match couperet qui s'annonce désormais au Qatar.
Avec seulement 3 qualifiés à ce stade, la France qui jouera demain à 16h contre la Tunisie, le Brésil et le Portugal, 3 qualifiés donc seulement alors que débutent les derniers matchs de poule cet après-midi. À 16h dans le groupe A, Pays-Bas, Qatar et Équateur, Sénégal. Et ce soir à 20h, le groupe B, Pays de Galles, Angleterre et Iran, États-Unis. Pour la première fois hier au Qatar, un supporter s'est introduit sur la pelouse en arborant un drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté LGBTQ+, qui représente la diversité, les couleurs arc-en-ciel qui figurent aussi sur ce brassard dont on a beaucoup parlé, que 7 sélections européennes entendaient arborer pendant le Mondial. Projet abandonné car les règles de la FIFA l'interdisent. Mais un brassard qui pourrait bientôt être porté sur les terrains français, comme vous nous le révéliez il y a 10 jours, Philippe Sanfourche. C'est en tout cas le souhait de la Fédération française de football.
Oui, une proposition en tout cas de la fédération qui met à disposition des clubs amateurs 2 exemplaires de ce brassard et les invite à les porter avant et après la Coupe du Monde. Alors, Pourquoi les amateurs et pas l'équipe de France, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que la FIFA a répondu défavorablement à la demande formulée par la FFF, qui ensuite n'a pas souhaité se mettre à la faute, pas souhaité surtout jouer les francs-tireurs, comme nous l'expliquait Noël Le Graët mercredi dernier, le président de la fédération préférant la solution FIFA, un brassard plus neutre, certes, mais universel.
Les 32 pays portent le même brassard. Et ça, c'était la volonté de la FIFA. L'Europe de l'Ouest, il y a 4 ou 5 ou 6 pays qui veulent toujours faire très différemment. J'apprécie pas forcément. On n'a pas toujours raison. Mais 32 pays qui ont le même brassard, je trouve ça très bien.
Alors on notera qu'au final, aucune sélection n'a décidé de désobéir à la FIFA et que les Pays-Bas, initiateurs de l'opération, ont adopté exactement la même position que la France en proposant le brassard One Love à leurs clubs amateurs.
Philippe Sansfourche au Qatar pour RTL. Philippe qui vous fera vivre évidemment demain la rencontre entre la France et la Tunisie. Coup d'envoi effectivement à 16h. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche pour un après-midi tout gris.
C'est vrai qu'on va garder beaucoup de grisailles et également un peu de pluie sur le flanc est parce que la perturbation a du mal à s'évacuer, pas grand chose mais ça reste chargé avec quelques gouttes, quelques flocons également dès 1100 mètres sur les Alpes. En revanche c'est bien pluvieux avec des averses orageuses encore cet après-midi sur la Corse et du vent et puis il restera quelques averses au pied des Pyrénées. Partout ailleurs un temps sec avec des éclaircies près de la Méditerranée du vent. Sur le reste du pays, on a beaucoup de grisailles. Vraiment, ça a du mal à se morceler, donc ça va rester. Cette impression un peu grise ce matin, elle va se conserver cet après-midi. Sauf sur l'ouest du pays, entre la Bretagne, la Normandie et le sud-ouest, on peut avoir un ciel un peu plus dégagé avec des éclaircies. Le tout sous des températures en baisse, mais de saison. De 7 à Grenoble jusqu'à 14 degrés à Montpellier, 13 à Brest et Marseille, 12 à Nantes, 11 degrés à La Rochelle, 10 au Mans, 9 à Paris et Lyon. Et 8 à 9h.
Merci Peggy.
Restez avec nous. Dans un instant, Iran-États-Unis, c'est un match de football programmé ce soir, mais ça sera l'occasion dans quelques secondes de parler précisément de la situation en Iran et comment le football peut éclairer la situation politique. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
La politique et le sport se sont rejoints la nuit dernière dans les rues de Téhéran où l'on a fêté la victoire de l'équipe iranienne 2-0 sur celle des États-Unis. Une victoire en Coupe du Monde de football qui va peut-être permettre à l'Iran de sortir de son isolement diplomatique.
C'était en 98 lors du Mondial en France, rappelez-vous Pascal.
La voix de Daniel Bilalian.
C'était sur France 2. 24 ans après, les deux nations se retrouvent à nouveau lors d'un mondial et au-delà de l'enjeu sportif, d'une possible qualification pour les huitièmes de finale des Américains ou des Iraniens. Il y a ce symbole d'autant plus fort que la situation en Iran reste explosive. Les gardiens de la révolution reconnaissent aujourd'hui qu'il y a eu plus de 300 morts depuis le début des manifestations qui secouent le pays. Bonjour Manas Shirali.
Bonjour madame.
Vous êtes sociologue, politiste et spécialiste de l'Iran, auteur notamment de « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné ». C'est aux éditions Les Pérégrines. D'abord, pourquoi ce match de foot est si politique ?
De toute façon, en Iran, tout est politique. Respirer l'air est politique. Donc, c'est tout à fait normal que l'équipe de foot, le match de foot soit politisé dans un pays comme l'Iran.
La pression est également sur les joueurs iraniens et on a vu, lorsqu'ils n'ont pas chanté l'hymne iranien notamment, on a interprété ça comme un geste politique. Est-ce que nous avons eu raison ?
Oui, en effet, ne pas chanter l'hymne national de son pays, c'est quand même un acte important, mais ça n'a pas été véritablement apprécié par les Iraniens. Pourquoi ? Parce que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, les membres de l'équipe de foot sont allés voir le président iranien Raisi, qui est considéré comme le boucher de Téhéran. Et donc, les Iraniens n'étaient pas contents de cette rencontre entre les membres de leur équipe avec le président qu'ils n'apprécient pas. Du coup, quand ils n'ont pas chanté le hymne national, c'était accueilli avec beaucoup de froideur. Et de la même façon, leur victoire il y a quelques jours n'a pas été véritablement accueillie et ça n'a pas provoqué la joie comme d'habitude. Et en revanche, pour le match d'aujourd'hui, je trouve que les Iraniens sont très divisés. la moitié d'entre eux, ils disent qu'il faut soutenir l'équipe de foot. L'autre, ils disent non, ce n'est pas notre équipe de foot. Donc, aujourd'hui, il y a quand même une division très importante dans l'opinion publique iranienne.
C'est ça, la division de la société se retrouve aussi parmi les supporters ou non de cette équipe de football. On a assez peu d'informations qui filtrent sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Qu'est-ce que vous savez, vous, des manifestations qui continuent dans les villes du pays aujourd'hui ?
Juste pour revenir sur la division de la société, aujourd'hui, jamais la société iranienne n'a été aussi unie qu'aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment l'écrasante majorité des Iraniens qui souhaitent la chute du régime. Donc là-dessus, l'Iran est très, très uni et il y a une conscience nationale très importante qui s'est réveillée d'une manière sans précédent parmi les Iraniens dans ces deux derniers mois. Et c'est sur l'équipe de foot, sur manière d'accueillir la victoire ou sa perte qui est une division. Alors, comment, pour répondre à votre question, comment les manifestations se déroulent, il y a des secteurs de l'industrie, du transport, du bazar de Téhéran qui ont commencé la grève. Cela a donné une nouvelle force aux manifestants, et donc on va voir comment ça va se passer, comment les choses vont se dérouler. Je crains, personnellement, je crains qu'on soit à la veille des grands massacres en Iran, parce que la République islamique n'est pas capable de résoudre les problèmes, n'est pas capable de sortir de cette crise, et je crains qu'ils répondent aux exigences des Iraniens par les exactions, par la peine capitale, par des grands massacres.
Est-ce que vous savez si ces manifestants scrutent le soutien international ? On sait qu'en France, l'Assemblée nationale a voté une résolution en soutien au peuple iranien.
Oui, absolument, absolument. Hier soir, cela a créé une très, très grande joie parmi les internautes iraniens. Ils ont accueilli la résolution, la décision de l'Assemblée nationale française avec beaucoup, beaucoup de joie. Ils ont salué Adrian Rahmi, le député qui était à l'origine de cette résolution. Et ben voilà, donc c'était vraiment un acte fort, un signal fort de la part de la France. Et je salue vraiment cette initiative qui avait une portée extrêmement importante pour les Iraniens.
Merci beaucoup Manaz Chirali. Je rappelle que vous êtes sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. C'est aux éditions Les Pérégrines.
La voix reconnaissable entre toutes de Claudio Capeo. Dans une seconde avec Steven Bedry.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter midi. So keep running, running. Let the waves carry me. The storm is turning, turning.
The clouds going out to sea. La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, musique, 9 ans après son dernier disque. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse.
Eh oui.
Et connaisse
ce nom-là, en tout cas.
Yodelis, comment
dire ? Yodelis.
Yodelis. En fait, il est de retour.
Oui, mais le public le connaît peut-être sous son vrai nom, Maxime Nucci, musicien, compositeur, réalisateur pour Johnny Hallyday pendant 7 ans. Yodelis, donc, qui vient de publier, Steven Bellery, un nouvel album baptisé The Circle.
Circle, exactement.
Comment vous dites-vous ?
Circle.
Circle, ouais, c'est mieux. Et vous avez donc rencontré Steven, le discret musicien.
Qui pendant longtemps s'est caché derrière son alias, son chapeau, ses plumes et son maquillage grimé. Maxime Nucci osait enfin entrer dans la lumière. Pourtant, ces dernières années, bien, c'est dans l'ombre qu'il est retourné façonner des disques pour la chanteuse Jane ou Johnny, évidemment. Yodelis revient avec 10 morceaux, vous l'avez entendu, très épuré, sobre, introspectif, en anglais toujours. Il a tout enregistré et mixé en solo. Je lui ai demandé pourquoi il avait mis tant de temps à retrouver le micro.
J'aime profondément la musique et faire de la musique, que ce soit pour moi ou pour d'autres. J'étais très épanoui aussi à faire de la musique pour les autres et les accompagner dans leur direction artistique et leur quête artistique. Et j'éprouvais pas nécessairement l'envie à ce moment-là de me replonger moi-même dans une espèce d'introspection et de faire un disque. Je pense qu'il y a un timing qui s'est fait, des sentiments qui se sont accumulés et Et c'était le moment, là, maintenant, voilà. Je me suis jamais vraiment considéré comme un chanteur, en fait. Je pense être musicien avant tout, et la voix, c'est un instrument qui me permet de dire ce que j'ai à dire. Maintenant, j'ai jamais été un grand virtuose de la voix, et je pense que ça s'empire.
Yodelis a beaucoup hésité avant de retourner en studio, Steven.
Oui, avait-il encore quelque chose à dire? Devait-il sortir son album sous son vrai nom? Devait-il peut-être même tuer son alter ego?
À un moment, je me suis dit, bah, peut-être qu'il n'y aura plus jamais de disque en tant qu'interprète, et ça m'allait très bien. Et en fait, j'ai été rattrapé par le même sentiment que j'avais à l'époque où j'avais créé Yodelis. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que ça fait un peu mec qui parle à la troisième personne, mais Yodelis, Maxime Nucci, tout ça, en fait, au fur et à mesure des années, même si au départ c'était assez schizophrénique, finalement on s'est accepté l'un et l'autre, on a fusionné l'un et l'autre. Et la création de cet avatar, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais très timide, la scène pour moi, le live, c'était une souffrance. D'avoir cet avatar, ce costume, ce rituel du maquillage m'a délivré de plein d'inhibitions, et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai envie que la proposition artistique se radicalise, j'ai plus envie de me maquiller.
L'album de Yodelis vient de paraître, il travaille sur une création, Salle Play à la Paris les 24, 25 et 26 mars 2023.
Dans l'actualité aussi, Steven Claudio Capeo qui sort Rose des Vents, quatrième album du chanteur révélé par The Voice.
Toujours en quête d'authenticité dans ses chansons, Claudio Capeo n'a jamais rien renié, ni ses origines, ni ses musiciens, toujours les fameux Capeo. Le chanteur rend aussi ainsi hommage dans son quatrième album aux petites gens.
J'ai grandi ici auprès des petites gens.
Parce que je suis un petit Jean, parce qu'on vient d'Alsace, on vient d'un petit village. Voilà, on n'a pas grand-chose, mais on vit auprès des paysans, on est proche des fermes, on est proche de tout ce bétail qui nous entoure tout autour de la maison. C'est des personnes qui travaillent de 5h du matin jusqu'à 21h le soir. Ils ont les mains usées par la vie, quoi. Ils ont toujours été au front. Et je trouve qu'ils sont parfois un peu négligés, un peu laissés pour compte. Et...
Le peuple coule dans mes veines, chantez-vous. Vous vous sentez plus proche des petites gens que des paillettes?
Ouais, mais vraiment, moi, les paillettes, je les vois pas. Moi, je suis accordéoniste, je fais de la chanson, je chante. Moi, c'est juste, je fais de la musique, hein, tout simplement. Les paillettes, je m'en moque un peu, c'est pas du tout mon truc. Bien sûr, parfois, on peut les voir et tout, mais je les regarde de loin. Moi, ce que je préfère, c'est le plaisir de la terre, le plaisir de la vraie vie, quoi. C'est de se coucher avec une petite tisane, un petit bouquin, où moi, je lis pas trop, donc je fais des dessins et je sais pas trop dessiner, donc j'écris des chansons, c'est plutôt mieux.
Le nouvel album de Claudio Capeo est dispo. Tournée des Zéniths dès octobre 2023.
Merci Steven Bellery. Il est bientôt 13h. On va parler chanson tout à l'heure avec Christian Olivier, avec la chanson de Gala.
Freed from Desire.
Exactement.
Toute ma jeunesse.
Ben oui, parce que c'est l'hymne de l'équipe de France, figurez-vous. Et peut-être y a-t-il un sens caché derrière cette question, derrière cette chanson, qui sait. A tout de suite.
RTL Midi.